Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Access sur Prune 92 FM. Access, donc, c'est tous les troisièmes jeudis du mois, à partir de midi à 13h, animé par Alice et Anthony et Léo. Alice et Anthony au micro et Léo à la réalisation. Donc, le but de l'émission Access, c'est une émission inclusive. Nous invitons donc à chaque fois les responsables de lieux ou d'associations qui proposent des événements inclusifs, accessibles aux personnes valides et aux personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, mes invités donc, sont Séverine Billon et Angélique Hambleton, qui sont toujours des ducs. Donc Séverine Billon qui est responsable de médiation. Séverine, bonjour.
Bonjour.
Et puis Angélique Hambleton, qui est médiatrice culturelle également au Château des Ducs. Angélique, bonjour.
Bonjour.
Avec Angélique et Séverine, nous allons parler du Château des Ducs, des dispositifs d'accessibilité et surtout de l'exposition qui est en ce moment au Château des Ducs jusqu'au 20 avril, l'exposition Chevalier dont nous parlerons tout à l'heure. Après cette interview, Alice nous présentera sa chronique coup de cœur. Alors Alice a participé à un parcours de médiation dans le cadre des Utopiales. Alice, bonjour. Alors c'était quoi, pour en donner une petite idée aux nos auditeurs, qu'est-ce que c'était que ce parcours de médiation dont on va parler tout à l'heure.
Bonjour Anthony, bonjour à tous. En fait, c'est une journée de découvrir un peu la science-fiction à travers d'expositions, livres, synthé humain, comment faire de la musique avec un écran et son corps, ses mains, voilà.
D'accord, merci Alice. Donc vous en saurez plus juste après l'interview. Donc tout de suite, Angélique et Séverine, merci d'être avec nous. Alors Séverine, tu es responsable de la médiation et au Château des Ducs de Bretagne. Et Angélique, tu es responsable, tu es médiatrice culturelle. Alors en quoi consiste votre travail? Alors je vais commencer par Séverine.
Alors mon travail, c'est de m'occuper de tout ce qui est programmation des activités de médiation au sein du château, que ce soit pour le château, pour le musée, pour les expositions. Donc par exemple, là c'est l'exposition Chevalier en ce moment. Et je travaille aussi avec l'équipe de médiation, c'est principalement une équipe de médiatrices, où on travaille ensemble à organiser le travail et à prévoir des visites, des médiations, des animations pour tous les publics. Ça, c'est vraiment notre objectif principal, c'est de nous adresser à tous les publics.
Et toi, Angélique, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a une différence en tant que médiatrice culturelle?
Séverine, elle est plus, je pense, en coordination du travail de l'équipe. On est à peu près, on doit être au moins 12 là en ce moment, 12 à 14. Et nous, notre travail, c'est d'être à la fois sur le terrain, c'est-à-dire en train de faire des visites guidées ou d'animer des ateliers pour les enfants, des visites en famille, des visites sensorielles, de bien sûr les préparer, rédiger les scénarios de visite en fait en amont. Et puis, c'est nous que vous voyez quand vous venez au château avec notre badge bleu, et on se balade aussi dans les salles, on fait de la médiation active pour répondre aux questions des visiteurs. Voilà. Le but, c'est d'être visible et puis d'être sur le terrain.
Alors Séverine, peux-tu nous présenter le Château des Ducs et ses différents dispositifs d'accessibilité?
Alors le Château des Ducs, d'abord c'est bien de rappeler qu'il est labellisé tourisme et handicap. Donc on peut vraiment accueillir l'ensemble des visiteurs, il y a une accessibilité maximale. Donc on a mis en place différents outils dans le musée et dans les expositions pour répondre aux besoins des personnes qui sont en situation de déficience visuelle. Il y a aussi des outils pour les personnes qui sont en situation de déficience auditive. Et on a aussi du matériel, des installations pour les personnes qui ont des problèmes plutôt d'accessibilité physique, avec dans un château du 15e des ascenseurs, des assises et des choses qu'on peut proposer, des accompagnements qu'on peut proposer aux personnes qui souhaitent visiter le musée. Et dans le musée, ce qu'on peut dire, c'est que on a mis en place, et ça, on est vraiment en train de le développer dans beaucoup de salles, des tables tactiles en braille pour découvrir chaque salle du musée. Et le projet aussi, pour encore développer cette accessibilité, c'est de mettre à disposition du public, donc ça, on va faire ça dans les mois à venir, des outils en facile à lire et à comprendre.
Ah oui, c'est une nouveauté, ça, du coup.
Ce sera une nouveauté, oui, pour 2025-2026.
Et combien de temps ça prend si on veut visiter le Château des Ducs, entièrement?
Alors, ça prend, beaucoup de temps. Alors, souvent, on donne une moyenne. On donne 1h30. C'est ce qu'on dit aux gens. Il vous faut 1h30 pour visiter le musée. Mais en fait, il faut beaucoup plus de temps. Et ce qu'on peut conseiller aux gens, c'est peut-être de venir comme ça une fois, se balader dans le musée ou faire un tour des remparts. Et puis après, de revenir visiter le château par thématique, parce que dans le musée, on aborde plein de thématiques. Il y a la période médiévale, il y a la période moderne avec le sujet de la traite. Le musée, le château, est vraiment un lieu de référence sur le sujet de la traite atlantique. Mais on évoque aussi la Révolution française, tout ce qui concerne la période industrielle. Les industries, c'était très important à Nantes, on pense à la navale. Et puis, on termine par les deux guerres mondiales. Donc, vous voyez, c'est 32 salles, il y a beaucoup d'objets, enfin, c'est un programme dense. Donc nous, on invite plutôt les visiteurs à venir et à revenir découvrir le musée. Peut-être à faire des visites guidées.
Oui, bah oui, parce que moi, je vais prêcher pour ma paroisse. Évidemment que le musée, là, tout est mis en place pour le visiter en autonomie, avec de plus en plus de dispositifs qui sont mis à disposition dans les salles. Et donc, avec mes collègues, on fait aussi des visites sensorielles sur tous les thèmes là, que Séverine vient de développer. Ça peut être sur le château et le Moyen-Âge, ça peut être sur la traite et la mise en esclavage des populations africaines, ça peut être sur la révolution industrielle, sur les guerres mondiales. Le travail aussi au quotidien, c'est de faire sortir des réserves, des objets liés à ces thématiques, d'en acheter aussi et de rendre la visite, entre autres tactile, mais on peut aussi des fois goûter des choses, j'en dis pas trop, ou sentir des choses, voilà. Donc ça, c'est, y a deux manières effectivement de découvrir les salles, en autonomie ou en guidé.
Alors, le Château des Ducs de Bretagne est accessible à tous les handicaps. Est-ce que ça a été facile de concilier accessibilité et patrimoine ?
Alors, non, parce que ça a été un travail vraiment de longue haleine. Alors, faut remonter le temps, faut remonter aux années 1990. C'est dans ces années-là, surtout, que le château a été restauré, donc les murs du château, le bâti, et puis l'installation du musée d'histoire de Nantes à l'intérieur. Et à cette époque-là, l'accessibilité, c'était encore une question un peu nouvelle. Et ça a vraiment été une volonté de la conservatrice du musée à cette époque-là, et aussi de la ville de Nantes, dans leur projet de rendre accessible le château. Et d'ailleurs, il y a une personne qui a été recrutée spécialement pour cela, pour travailler sur cette question de l'accessibilité. Et puis, pendant de nombreuses années, il y a des outils qui ont été mis en place. Et moi, je vais être sur un peu l'anecdote des ascenseurs, parce qu'aujourd'hui, c'est une question banale. Il y a des ascenseurs partout, dans tous les bâtiments, les nouveaux musées. Mais à cette époque-là, c'était quelque chose qui n'était vraiment pas évident d'installer des ascenseurs dans un bâtiment du 15e. Et il a fallu vraiment négocier avec l'architecte des monuments historiques pour obtenir l'installation d'un ascenseur, notamment dans l'espace central. Il a fallu aussi percer un mur pour y avoir accès. Et ça n'était pas une question évidente. Donc aujourd'hui, c'est un sujet qui est acquis, c'est une évidence de travailler sur cette question, parce que le travail sur l'accessibilité, en fait, c'est un bienfait pour tous, parce qu'au départ, on s'adresse à des personnes qui ont une difficulté ou une déficience par rapport à la vue, par rapport au déplacement, mais en fait, on s'aperçoit que tout le monde en profite. Hein, quand un musée est plus confortable, tous les visiteurs en profitent, des plus jeunes aux plus âgés.
Peut-être que tu veux. Oui, je voulais dire qu'effectivement, on a rouvert le château en 2007 et dès 2008, on a obtenu un label, et c'était très rare à l'époque, qui reconnaissait le travail qui avait été fait pour les 4 handicaps. Ça, c'était très, très rare. Et on fait des visites de temps en temps avec des jeunes, notamment qui sont en BTS Tourisme, qui est une visite sur la politique d'accessibilité. Et j'ai encore une visite là il y a 15 jours avec des jeunes de 19-20 ans et qui étaient, et les enseignants aussi, épatés par tout ce qu'on met en place et qui nous remercient et qui prennent conscience du fait que, bah oui, avoir un ascenseur, ça peut paraître banal, mais en fait, comme disait Séverine, ça a été très complexe de le faire accepter, et que maintenant, bah, nous, les guides, par exemple, on a notre bureau qui est au 4e étage du château, bah, on est très contents qu'il y ait un ascenseur tous les jours pour y monter et en descendre. Donc, bien sûr que ces facilités-là, aujourd'hui, elles sont utiles pour tout le monde, quoi.
Et du coup, comme on parle, du coup, c'est quand même assez rare d'avoir un château avec autant de niveau, avec un tel niveau d'accessibilité dont on parlait tout de suite. Du coup, est-ce que vous avez des contacts avec d'autres villes pour concernant l'accessibilité et des partages d'expériences concernant l'accessibilité ? Justement, avec qui vous échangez sur l'accessibilité et vous pouvez donner peut-être des conseils sur d'autres lieux ?
Alors, en effet, on a des contacts avec d'autres sites en France. Alors, il faut savoir que quand même maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de musées, même tous les musées, ils travaillent sur cette question. Donc, on est vraiment dans l'échange. Et aussi, on travaille beaucoup cette question. Alors, évidemment, on échange avec d'autres villes, mais aussi à Nantes, hein, parce que c'est une question importante. Et on échange avec le Musée des Arts, avec le Musée Homme. Régulièrement, on fait des points pour évoquer ces questions et partager nos expériences. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Qu'est-ce que nous faisons ? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? Comment aussi est-ce qu'on pourrait faire mieux connaître ce que l'on fait ? Donc là, par exemple, on a un outil audio et tactile qui répertorie l'ensemble des lieux culturels nantais avec toutes les offres qui sont proposées et tous les outils qui sont à disposition des personnes en situation de déficience visuelle.
Et comment il s'appelle cet outil ?
Alors, c'est l'outil qui a été mis en place par la ville de Nantes. Donc, c'est un outil audio et c'est aussi un guide tactile. Et c'est la mairie de Nantes, avec Charlotte Audolan, qui a mis en place cet outil qui est accessible sur le site de la ville de Nantes et qui est aussi disponible dans tous les lieux culturels. Donc, par exemple, si vous allez à l'office de tourisme, alors aujourd'hui, on ne dit pas l'office de tourisme, on dit le voyage à Nantes, mais cet outil, il est utilisable et vous pouvez voir les offres et ce qu'il y a, par exemple, au lieu unique, mais ce qu'il y a aussi au château, ce qu'il y a à la médiathèque.
Donc, on va faire une pause musicale et puis juste après, on va se retrouver là pour parler plus précisément de l'exposition qui a lieu en ce moment, donc l'exposition Chevalier. Donc, on va écouter du coup, Séverine et bien sûr, Séverine et Angie, vous restez avec nous. Et donc, on va écouter Louis Bertignac avec ces idées-là.
Bébé, faudrait rentrer, tu vois, je suis en mal-être avec toi. La machine à café détraquée. Cendrier tous renversés, des heures passées devant la mire de ma télé, des nuits sans dormir à me demander où tu peux bien aller. Ouais. Faut pas me laisser traîner là. Seul avec ces idées-là, j'suis pas si fort que tu crois. Non, pas si fort que ça. Oh non, 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 non. Me laisse pas là tout seul aux zéniths comme ça. Bébé, 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 un doux en moi s'est figé,
vas plus rentrer. Je peux faire une croix sur toi. Oh, comment ne pas m'imaginer ta petite gueule entre ses bras. Comment ne pas crier, comment ne pas pleurer. Je suis si fatigué. Super bien, ouais, c'est merveilleux. Et ça serait encore mieux avec toi. Tu peux pas m'abandonner. Me laisse pas, me laisse pas, me laisse pas, me laisse pas.
Access de midi à 13h sur Prune.
À l'instant, donc, c'était Louis Bertignac avec Ces idées-là. Et en fait, je voulais dire que nous, avec Alice, on a choisi cette chanson-là parce que, en fait, pour ceux qui étaient, ceux et celles qui étaient, le 8 novembre dernier, Bertignac est venu à la Cité des Congrès. Et nous, Alice et moi, on y était. On a passé une super soirée. Il y a vraiment eu une ambiance de folie. Et du coup, c'était vraiment super parce que c'est vraiment super un concert de Bertignac parce que, du coup, en fait, il parle beaucoup avec son public. Raconte des anecdotes sur sa vie, sur sa famille, sur des choses qui plein de choses, et c'est vraiment sympa. Et en fait, ces idées là c'était la dernière chanson, et en fait on a fait tous là comme ils ont entendu le oh ou, et on a passé cette chanson là parce que quand cette chanson elle est passée, et ben du coup avec Alice et moi on s'est entendu chanter comme on a tous chanté vendredi dernier, le vendredi 8 novembre, lors du concert de Bertignac. Alice, t'es d'accord avec moi ?
Tout à fait. Et c'était super et inoubliable.
Et donc justement, ces idées-là, ça fait une très bonne transition avec la suite, puisqu'on pour ceux qui, celles qui viennent de nous rejoindre, nous sommes donc toujours du coup avec Séverine Billon, responsable de médiation au Château des Ducs de Bretagne, et Angélique Hamilton, médiatrice culturelle, et pour nous parler du Château des Ducs. Et là, du coup, nous allons parler de l'exposition qui a lieu en ce moment, l'exposition Chevalier. Alors, du coup, Séverine, peux-tu nous présenter cette exposition ?
Alors l'exposition Chevalier, c'est une exposition importante pour le château des Ducs de Bretagne. Elle a commencé le 19 octobre et elle s'achèvera le 20 avril 2025. Alors, c'est une exposition où on accueille les collections d'un musée italien à Florence qui s'appelle le musée Stidbert. Donc, on accueille à peu près 150 objets de ce musée et on évoque l'univers du chevalier. Alors, c'est une exposition qui a accueilli déjà beaucoup de monde. Parce que vous voyez, elle a été ouverte le 19 octobre et on est déjà à plus de 20 000 visiteurs. Alors, c'est une exposition qui plaît beaucoup aux familles, aux jeunes publics, mais c'est quand même une exposition très pointue qui vraiment évoque le chevalier, le rôle du chevalier, qu'était un chevalier, comment est-ce qu'on devenait chevalier. Et puis, comme au château, on a une vocation à toujours lier nos expositions, vous voyez, à la société, aux questions d'histoire. Dans cette exposition sur les chevaliers, on aborde aussi le rôle de la femme, les femmes dans la chevalerie, les femmes au Moyen-Âge, quel était leur rôle, les femmes guerrières. Et puis aussi, on aborde certaines figures bretonnes de la chevalerie bretonne qui sont aussi évoquées parce que c'est le rôle du château. Et puis, dans cette exposition, on évoque l'imaginaire du chevalier parce qu'on sait qu'au XXe siècle, les chevaliers ont beaucoup influencé la littérature, le cinéma, la télévision. Et à la fin de l'exposition, on peut aller sous des petites tentes écouter des extraits de films en lien avec l'univers de la chevalerie.
Il y a des... J'aime bien poser des questions en visite guidée. Faut qu'on s'interroge aussi quand on voit ces objets-là. Séverine parlait de clichés. Qu'est-ce qu'il reste de leur image et est-ce qu'elle est fidèle à ce qu'ont été en fait les chevaliers à partir du XIe siècle? Ça, c'est vraiment la question. C'est un peu en visite guidée, c'est un peu mon fil rouge. Hein. Bon. On commence par les idées qu'on a en tête. Qu'est-ce que c'est un chevalier? En plus, là, pendant les vacances d'octobre, c'était génial de faire ça avec les enfants parce qu'évidemment, ils ont tout de suite une image en tête, de vérifier si c'est la bonne. Et puis, il faut aussi qu'on interroge interroger la collection en fait, qu'on nous propose parce que Stibert, c'est un collectionneur hein, du 19e siècle italien. C'est un romantique, il veut être entouré d'objets et de chevaliers, mais est-ce que sa collection elle est aussi fidèle à ce qu'a été la chevalerie? Donc c'est un peu le type de questionnement qu'on peut avoir aussi entre adultes quand on visite une exposition comme ça.
Et comment s'est fait le choix de proposer cette exposition au Château des Ducs?
Ça, c'est vraiment la direction qui choisit les thématiques d'exposition. Et l'idée, c'est de faire des grandes expositions, on va dire, de civilisation et de créer des partenariats avec d'autres musées internationaux. Donc, vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, l'exposition de Gengis Khan. On avait eu aussi une grande exposition sur l'or avec un musée de Colombie. On avait eu aussi une grande exposition sur l'Amazonie. Et là, l'idée, c'est de travailler avec ce musée de Florence pour aborder la question de la chevalerie. Donc là, on est plutôt sur la civilisation européenne. Mais c'est vraiment un choix de la direction du château. On a le musée d'histoire de Nantes, donc on est plus sur l'histoire de Nantes, même si on l'évoque d'une manière globale et qu'on s'intéresse à l'histoire globale. Et puis, nos expositions, elles sont tournées plutôt vers l'ailleurs, l'autre, découvrir des grands thèmes de civilisation.
Il y avait aussi un élément qui était important, c'est que le musée Stibert de Florence, on a déjà travaillé avec eux. Alors, il faut s'en souvenir, mais bah, c'était pour l'exposition Samouraï, dont on nous parle encore quasiment tous les jours. C'était en 2014. Il faut s'y faire. C'était il y a 10 ans, cette exposition, mais le musée Stibert nous avait déjà prêté des armures de samouraï, parce qu'en fait, ce collectionneur, il avait acheté en fait des armes et des armures de différentes époques et aussi de différentes régions géographiques, dont des armures asiatiques. Voilà. Donc, la direction du château avait déjà travaillé avec eux, donc ça aussi, ça facilite les relations, quoi.
Alors, les expositions du musée du château rassemblent un nombre impressionnant d'objets. Est-ce que c'est facile d'obtenir tous ces objets ?
Alors, non, ce n'est pas facile. Ce sont des longs mois de négociations. Et une exposition, elle se pense des années avant. C'est-à-dire que nous, on est déjà là en 2026-2027 à réfléchir sur les prochaines expositions. Et puis au château, il y a plein de services et chacun travaille à la préparation de ses expositions. Il y a le service de la conservation, il y a un service des expositions, il y a une direction scientifique qui travaille un scénario d'exposition. Puis après, avec le pôle des expositions, ils partent à la recherche des objets et à l'acceptation des prêts des objets par les musées. Il y a des histoires de coûts, il y a des histoires d'assurance. Il faut que le sujet aussi soit pertinent, qu'il y ait quand même un lien avec le travail qui est fait au musée, vous voyez, autour de la citoyenneté, de l'engagement, de l'histoire globale. Donc ça prend vraiment plusieurs années de monter une exposition et c'est un travail de tous les services, et notamment le service de la médiation.
Alors, y a-t-il des visites et des accompagnements spécifiques pour justement cette exposition, Chevalier ?
Alors, moi, je peux parler des visites sensorielles qu'on n'a pas encore débutées, hein, qui vont débuter à la fin du mois de novembre. C'est toujours un challenge quand il y a une nouvelle exposition parce que il faut qu'on la rende accessible. Et par définition, puisque les objets nous sont prêtés par d'autres musées, les objets sont dans des vitrines. Ils sont évidemment, il est impossible d'y avoir accès, de les toucher, etc. Donc, notre défi, c'est de trouver des solutions pour la rendre accessible. Alors, j'ai envie de dire que sur Chevalier, ça n'a pas été très compliqué parce que, bien sûr, cette expo est pleine d'éléments d'armure, de toutes sortes, et que le choix le plus logique, c'était d'acheter une armure de reconstitution, en fait, hein, qui sont des armures qui sont faites par des sociétés, des forgerons spécialisés pour les gens qui font de la reconstitution historique. Donc, c'est en métal, les poids sont respectés, etc. Donc, alors, je ne vais pas tout dire, mais on a, si vous venez, il y a moyen de vous prendre pour un chevalier pendant quelques minutes, parce qu'on a quand même acheté pas mal d'éléments qui peuvent être non seulement touchés, mais aussi mis sur les différentes parties du corps.
Ah, c'est chouette, on peut mettre une côte de maille, une armure
Alors, voilà, la côte de maille.
Ah, j'adore.
Le cliché, parce qu'on n'a pas de côte de maille dans l'expo. Parce que la côte de maille, elle est assez ancienne, en fait. Nous, on a des armures, ce qu'on appelle des harnois, c'est-à-dire juste des plaques métalliques. Mais par contre, oui, il y a moyen de porter un plastron qui protège le corps et la poitrine et le dos. On a acheté des gantelets, on a acheté évidemment des protections de tête, des protections pour les pieds, etc. Donc, je pense que c'est ce qui va être un peu fun. Et il faudra du temps, par contre, il faut prévoir du temps. C'est que on va faire porter les objets, quoi.
Oui. Et donc j'ai lu qu'il y avait des dates déjà, certaines dates prévues déjà pour des expositions spécifiques.
Alors là pour le trimestre, on propose donc le samedi 30 novembre le matin, donc une visite guidée dans l'exposition des chevaliers. Donc c'est une visite sensorielle qui est vraiment destinée aux personnes en situation de déficience visuelle. Alors je peux vous dire quand même que la visite elle est quasi complète. Il reste très très peu de place, mais on va proposer une autre date, c'est le samedi 1er mars, donc c'est à noter dans vos agendas, à 10h15, il y aura donc une nouvelle visite guidée sensorielle dans l'exposition Chevalier, pour découvrir cette belle expo. Alors, ce que je peux rajouter quand même, c'est que dans cette exposition, on peut aussi venir la découvrir en autonomie. C'est mieux de la faire avec en visite guidée, voilà, on apprend beaucoup de choses. Mais dans l'exposition, à différents moments de l'exposition, vous avez des tables tactiles qui permettent de découvrir les différentes parties de l'exposition. Une armure, tout ce qui concerne la mythologie. Donc ce sont vraiment des outils d'aide et des outils d'accompagnement pour découvrir l'exposition.
Alors sur votre site internet, j'ai lu qu'il y avait des animations pour le jeune public. Du coup, est-ce que ces animations peuvent être inclusives ou alors est-ce qu'il y a des animations plus spécifiques pour le jeune public en situation de handicap ?
Pour l'instant, ces animations, elles n'ont pas été pensées pour être inclusives. Je pense que ça nous nécessiterait peut-être des formations d'ailleurs supplémentaires parce qu'on a plus l'habitude de travailler avec des adultes. Je suis en train de réfléchir pendant que je vous réponds. Ça me paraît, les visites telles que là, elles ont été pensées pour cette exposition-là. Ça me paraît peut-être un petit peu compliqué. C'est quelque chose à prendre en compte pour éventuellement des expositions futures ou même pour le musée, hein, tout simplement.
Alors après, on accueille quand même beaucoup de jeunes publics dans le cadre de nos visites scolaires où dans les classes scolaires, il peut y avoir des enfants qui sont en situation de handicap. Et du coup, les médiatrices sont formées, elles sont habituées à s'adresser à tout type de personnes et à tout type de handicap et d'adapter leur discours, leurs outils. Donc, par ce biais-là, le jeune public en situation de handicap peut avoir accès à l'exposition. Et dans les animations jeune public, en fait, ces animations, elles sont ouvertes à tous. Alors, c'est vrai qu'elles ne sont pas spécifiquement dédiées à des enfants qui auraient un handicap spécifique. Mais ça a pu arriver que des fois, il y ait des enfants qui sont un peu dans cette situation-là. Et puis, on trouve toujours quand même des solutions dans le cadre de l'animation. Il y a deux médiatrices qui sont là avec une dizaine d'enfants.
Oui, rien n'est impossible.
Voilà. Et puis en plus, dans les animations, il y a un côté pratique. Donc,
on manipule beaucoup. Voilà,
il y a plein de petits jeux, donc tous les enfants s'y retrouvent.
Bien sûr.
Et alors Angélique, comment ça s'organise une visite spécifique ? Parce que j'imagine que, vu que bon, c'est le château, comme il est accessible à tous les handicaps, j'imagine que d'un handicap à l'autre, suivant les degrés, j'imagine qu'il y a des choses auxquelles il faut penser.
Il faut déjà beaucoup discuter entre nous en équipe. Là, si je prends l'exemple, par exemple, de l'exposition Chevalier, on reçoit en amont, plusieurs mois à l'avance, par exemple, la liste des objets qui seront dans l'exposition. Et la réflexion, c'est, encore une fois, comment ces objets sous vitrine, on va les rendre accessibles, qu'est-ce qu'on achète. On fait bien attention d'acheter des pièces qui sont très 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 similaires à celles qui sont dans l'exposition. On a plein de collègues qui ont des mains en or et qui sont des grandes bricoleuses et qui peuvent travailler tout un tas de matériaux différents. Donc on peut aussi fabriquer nous-mêmes des objets. Ce qu'on aime beaucoup faire, ce sont par exemple des cartes tactiles qu'on fait maintenant nous-mêmes parce qu'on met exactement ce qu'on veut dedans. On a fait valider ça par l'association Valentin Houy et ils sont toujours plutôt très satisfaits de nos propositions avec différentes textures, etc. Donc le travail, là, c'est beaucoup de réflexion en amont de comment on rend ça accessible, qu'est-ce qu'on met en œuvre, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on fabrique, quels sont on trouve. Des fois, on fait nos fonds de placard chez nous, on sollicite des gens qu'on connaît pour tel ou tel matériau. Enfin, voilà, c'est un gros travail d'équipe pour qu'à la fin, tout le monde s'y retrouve, que tout le monde puisse prendre ses éléments en main et puis que tous les publics aient accès à ces objets-là qui sont quand même assez incroyables. À chaque fois, on a une chance folle de recevoir ces objets qui viennent des quatre coins du monde. Et il faut que tout le monde puisse en profiter, quoi.
Et est-ce que tous les médiateurs et médiatrices sont formés ou sensibilisés à tous les handicaps ?
Alors oui, c'est une obligation. En fait, ça fait partie du label Tourisme et Handicap. Donc régulièrement, en fait, il y a des formations. Alors pour les nouveaux, c'est une question nouvelle, mais sinon, c'est aussi une remise à jour un petit peu des différents sujets. Donc il n'y a pas très longtemps, l'équipe de médiation a fait une formation avec l'association Valentin Huy sur une journée pour discuter autour de ces questions et puis aussi avoir la bonne posture et réfléchir aux techniques de médiation pour bien accueillir le public en situation de déficience visuelle.
L'accessibilité est-elle un critère dans le choix des expositions ?
Alors, l'accessibilité n'est... C'est pas un critère de choix d'exposition, mais l'exposition doit être accessible. Je le formulerai un petit peu de cette manière-là. C'est vraiment une obligation pour nous de réfléchir à cette question-là. L'accessibilité physique, donc dans la scénographie, c'est vraiment une question dont on doit tenir compte. Les outils de médiation, donc moi je vous ai parlé des tables tactiles, des documents faciles à lire et à comprendre, et puis aussi des visites pour tous, des animations pour tous les âges et tous les publics, en groupe ou en individuel.
Et donc là, on parle du coup en ce moment de l'exposition Chevalier, mais déjà pour nos auditeurs et auditrices, est-ce que vous avez un scoop sur les actualités du château, des prochaines visites qu'il pourrait y avoir après cette visite ou qu'il pourrait y avoir aussi en même temps est-ce qu'il y a d'autres actualités ?
Alors oui, il y a toujours une riche actualité au château. Peut-être concernant l'exposition Chevalier, on peut retenir deux dates. Avec au mois de décembre, c'est le 14 décembre, on a Noël au château, c'est le Noël des chevaliers. Donc il y aura un temps fort pour les enfants et pour les familles dans l'exposition autour de Noël et des chevaliers. Donc ce sera vraiment un après-midi pour s'amuser et découvrir l'exposition. Et puis l'autre temps fort, ce sera au mois d'avril. Donc au mois d'avril, c'est le 5 avril, il y aura aussi un après-midi pour découvrir l'exposition, mais aussi il y aura plein d'animations pour profiter de l'univers des chevaliers et s'amuser. Donc déjà, on peut retenir ces deux dates-là dans l'exposition Chevalier. Après, si vous allez sur notre site internet, vous verrez qu'il y a plein de choses qui sont proposées, avec notamment des concerts. Il y aura aussi des conférences, si on aime le Moyen-Âge et si on aime le thème de la chevalerie. Alors après, vous avez envie d'avoir des scoops pour connaître les prochaines expositions après Chevalier ?
Mais si jamais si c'est possible et si vous avez le droit de nous les partager.
Bon, il y a un scoop qui n'en est plus vraiment un puisqu'il y a de l'affichage partout au château et puis ça commence à se savoir et à se dire. C'est que à partir de la fin juin 2025 et pour tout l'été, on va accueillir. Alors, je crois que le terme là, on peut l'utiliser, l'adjectif exceptionnel, une exposition absolument exceptionnelle de 145 œuvres du peintre Okuzai. Okuzai, c'est le peintre qui a fait la vague, peintre japonais. Et là, c'est lié aux partenariats qui ont été obtenus de longue haleine là, entre la ville de Nantes, le château des Ducs de Bretagne et des partenaires japonais. Et donc, le musée Okuzai va nous prêter donc, 145 œuvres, dont certaines, je crois, qui ne sont même jamais sorties du Japon. Donc là, il va falloir réserver à l'avance. Et puis, on peut dire le thème de celle d'après.
Ouais.
Une exposition sur les sorcières. Alors, exposition qui va être très historique, on va partir vraiment de la base, on va repartir dans l'Antiquité et découvrir d'où ça vient, hein, ces sorcières, qu'est-ce que c'est qu'une sorcière, et puis jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'au, bien sûr, à tout ce qui s'est passé pendant le Moyen-Âge, et jusqu'à même très récemment, on parlait de la place de la femme tout à l'heure dans la société, et comment ces femmes ont pu être tout simplement mises au bûcher pour leur activité dite de sorcière. Donc c'est tout ça qu'on va développer de manière très historique, très scientifique dans l'exposition qui commencera début 2026, hein, janvier je crois, 2026. Donc des choses très différentes. Encore plein d'aventures à vivre au château.
Il ne faut pas oublier que le château c'est un musée d'histoire. Et que aussi l'idée, c'est de réinterroger certaines questions historiques. Donc, par exemple, là, c'est le thème du chevalier. On va le faire autour du thème des sorcières. Et on l'a fait, par exemple, sur un sujet comme la traite atlantique ou les deux guerres mondiales. Ça, c'est vraiment très important pour le musée d'être dans l'actualité de ces sujets. Et des fois, c'est des sujets sur lesquels on a des idées préconçues, des a priori ou des images ou des clichés. Et du coup, ces expositions, elles servent à nous réinterroger sur ces sujets-là et à refaire le point.
Et donc, oui, du coup, Séverine, si on veut, par exemple, vous contacter toi et ou Angélique, ou bien contacter le château pour soit des renseignements sur l'accessibilité ou soit pour organiser une visite, comment est-ce qu'on fait ?
Alors, le moyen le plus simple, c'est le mail et de m'envoyer un mail. En fait, je peux donner mon...
Donne-nous ton mail, et comme ça, pour
les auditeurs et auditrices. Mon contact mail, c'est séverine.billon, B-I-2-L-O-N, @chateaunantes.fr. Et là, si vous souhaitez avoir des informations sur l'exposition Chevalier ou réserver pour faire une visite de groupe dans l'exposition Chevalier, là, il n'y a pas très longtemps, il y a la CLISA qui m'a appelé. Ils vont venir faire deux visites dans l'exposition. Ils sont les bienvenus. Eh ben, n'hésitez pas à me contacter. On pourra trouver un temps pour que vous puissiez venir découvrir l'exposition ou même le musée ou le château.
Oui, puis sur le site internet du Château des Ducs, il y a aussi toutes les infos sur la visite. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse du site internet, ce que tu l'as ?
Alors, le site internet du château, oui. Alors, www.chateaunantes.fr.
Voilà, donc www.chateaunantes.fr ou ben, le contact mail de Séverine pour, ben, voilà, si vous voulez faire une visite ou bien avoir des infos sur le Château des Ducs. Alors oui, du coup, et pour l'exposition, donc c'est le château et l'exposition, c'est ouvert tous les jours. À quelle heure on peut venir
Alors on est ouvert du mardi 10h jusqu'au dimanche. Donc en gros, c'est du mardi au dimanche, tous les jours, de 10h à 18h. Ou arriver avant 17h30, et même on conseille d'arriver même avant 16h30 pour être sûr d'avoir le temps de visiter. Mais dites-vous 10h, 18h du mardi au dimanche, sans interruption, pas de pause le midi.
Vas-y Séverine, excuse-moi.
C'était juste pour vous dire que cette année, on vous conseille pour l'exposition Chevalier de réserver en ligne. Ça se fait beaucoup dans les musées parisiens, mais même à Nantes, hein, au musée d'art. C'est plus confortable. Pour ne pas avoir trop longtemps à attendre dans les files d'attente, eh ben, on peut réserver en amont son billet. Comme ça, on a un horaire, on vient à l'horaire et puis on peut découvrir l'exposition tranquillement.
Oui, et pour les gens qui voudraient être dans le calme, il y a quand même des créneaux privilégiés, c'est-à-dire bon, les week-ends, forcément, on est complet parce qu'il y a, comme disait Séverine, beaucoup de familles qui viennent. Donc en semaine, c'est quand même beaucoup plus calme, hors vacances scolaires en fait. Hein, c'est-à-dire là, maintenant, les jours de semaine, vous avez l'assurance de visiter quand même en toute tranquillité.
Eh bien, Séverine et Angélique, merci d'être venues sur l'antenne de Prune pour la deuxième fois. Merci d'être venues pour nous avoir présenté le château, les dispositifs d'accessibilité et l'exposition Chevalier. Donc, on va écouter un morceau de musique et juste après, on va retrouver la chronique Coup de cœur d'Alice sur le parcours des Utopiales. Alors, qu'est-ce qu'on écoute du coup, Léo ?
On va écouter Misty Rams de Portishead. Thank you.
Coup de cœur. La chronique pour partager un coup de cœur vu ou entendu.
Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes toujours dans l'émission Access avec Alice et Anthony au micro et Léo à la réalisation. Alors, donc maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être la chronique coup de cœur d'Alice. Alors Alice, tu as eu le plaisir, tu as eu le plaisir, toi, de participer à un parcours de médiation le 31 octobre dans le cadre des Utopiales, Alors vas-y Alice, raconte-nous cette super journée coup de cœur.
Et oui, je vais vous emmener à Cité des Congrès. C'était le jeudi 31 octobre. Et j'étais aux Utopiales, et les Utopiales, c'est un festival sur la science-fiction. C'est pas mal, après un château et l'exposition des chevaliers, on peut voir des choses sur la science-fiction. Il y avait des expositions, des objets, pas mal de choses, et effectivement... Pick-up Production et et les Éthiopiens ont permis que nous, un groupe de 10 personnes, donc non les malvoyants, entre autres il y avait Anthony et moi, qu'on puisse toute une journée déambuler dans la cité des congrès et de voir pas mal de choses, d'expositions, de comment on a pu le matin, c'était un jeu sur le monde, qu'est-ce qu'il deviendrait en 2050, et ce jeu était accessible qu'on soit non-voyant ou clairvoyant ou même en fauteuil ou autre, bah, tout le monde pouvait jouer parce que ces cartes étaient accessibles, étaient à la fois imprimées et en braille et pouvaient permettre avec, on tirait 4 cartes et avec cette carte-là, on pouvait créer un métier où on pouvait le métier de 2050, comment sauver notre planète, comment avec des contraintes, des secteurs, comment on appelle ça, la carte, une carte aussi qui pouvait permettre d'aider. Et ce jeu durait pendant 2 heures, le temps de réfléchir en petit groupe de 3 à comment on pouvait créer ce genre de métier du futur. Après l'après-midi, on était plusieurs aussi à avoir été à un atelier où c'était un synthé humain, du synthé corporel. Donc c'est un grand écran. Et devant ce grand écran, selon comment on mettait notre main, notre corps, ou si on avançait, reculait, il y avait différents sons. Donc on pouvait créer une mélodie ou... Et donc, il y avait 2 conférenciers qui nous ont expliqué comment ils faisaient et nous ont fait faire. Et il y avait aussi des micros où on pouvait faire des sons différents. Même Anthony a pu aussi s'éclater avec les micros.
C'est vrai que moi, j'ai fait cet atelier et c'était impressionnant de voir qu'avec notre simple voix sur un micro, du coup, ça pouvait faire différents sons. Et puis surtout, ce qui m'a surtout le plus surpris, c'est que, en fait, pour l'atelier là, la musique, là, c'est qu'en fait, dès qu'on bougeait la tête ou les mains ou les épaules ou qu'on penchait notre corps, ça faisait différents sons. Alors, ils nous ont pas expliqué comment ils ont fait ça, mais c'était vraiment incroyable de voir qu'avec notre corps ou avec un simple micro, avec notre simple voix, on pouvait faire un tas de choses, quoi.
Oui.
Et c'est vrai que c'était une première. C'était la première fois qu'on allait aux Utopiales. Moi, je sais que j'avais toujours entendu parler des Utopiales et c'est bon, ça, quelque part, c'est quelque chose qui m'intéressait. Alors, je sais pas, moi personnellement, si j'y serais allé tout seul, parce que c'est vrai que la science-fiction, c'est assez particulier, c'est assez visuel. Et grâce à cette journée, du coup, on y est allé. Donc, franchement, merci à l'équipe de Pickup Production et aux Utopiales d'avoir organisé cette journée, de nous avoir donné envie de participer, parce qu'en fait, de venir, parce que le matin, c'est vrai qu'il y avait le jeu collaboratif, on était tous ensemble, et l'après-midi, nous, Alice et moi, on a fait ce choix de l'atelier dont on vous a parlé, mais il faut savoir que tout au long de l'après-midi, jusqu'au soir, il y avait plein de conférences, et comme on avait, en fait, pour les personnes qui avaient besoin, on avait chacun un bénévole avec nous, donc en fait, chaque personne non, qui avait besoin pouvait en fait choisir pour l'après-midi la conférence, on avait un programme de la conférence ou l'atelier qu'il ou elle avait envie.
Et il y avait aussi, ce qu'il y avait, c'est qu'à l'intérieur de la cité, il y avait aussi ce qu'on appelle un petit village avec différents petits stands où on pouvait trouver des BD, des cartes, des affiches, des t-shirts, des stylos 4 couleurs, des suites aussi, pas mal de choses. Il y avait... Parce que ça mélange la science-fiction et puis aussi la science aussi, voilà.
Et c'est vrai que ça nous a vraiment plu, donc si ça se refait l'année prochaine, je pense qu'on y viendra. Donc merci bien sûr aux Utopiales et à Pickup Productions. Et puis si jamais ils écoutent, si jamais l'équipe des Utopiales relance ça cette année prochaine, nous serons présents et on en parlera bien sûr.
Et c'est vrai que moi j'adore la science-fiction parce que j'ai écouté et vu des films. Mais j'ai aussi lu des livres et c'est vrai que c'est quelque chose de super aussi.
Eh bien, merci Aïs pour cette chronique. Et puis pour vous rappeler que si jamais vous avez pris l'émission en cours, ou si jamais il y a soit lors de la visite du château, soit lors de l'interview de Séverine et Angélique sur le château ou sur la chronique d'Alice, il y a quelque chose que vous avez raté, sachez que cette émission Access sera podcastée dans les prochaines semaines sur le site prune.net. Eh bien voilà, l'émission Access se termine. On vous remercie de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à écouter cette émission que nous en avons eu à l'animer. Alors merci à Alice pour la chronique coup de cœur sur les Utopiales. Merci à Léo pour la réalisation de cette émission. Je remercie aussi également nos invités, donc Séverine Billon et Angélique Hamilton. Donc Séverine Billon, qui est responsable de la médiation au Château des Ducs de Bretagne, et Angélique Hamilton, médiatrice culturelle, pour être venue nous présenter le Château des Ducs, les dispositifs d'accessibilité et l'exposition Chevalier, qui a lieu jusqu'au 20 avril 2025. Le prochain Access, c'est le 19 décembre. Dans quelques instants, nous allons vous laisser avec les programmes de Prune. Ne manquez pas à 17h30 l'émission Curiosité. Donc tout de suite, on vous laisse avec les programmes de Prune. Excellente journée à l'écoute de Prune.